Le professeur aux facultés de management et d'agriculture de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, initiateur de l'Institut canadien de prospective agroalimentaire, présentait aux congressistes de l'Association des détaillants en alimentation une étude sur les liens des Québécois avec leur épicier. Les Québécois, à cet égard, sont toujours une exception au Canada. Il y a au Québec davantage de petits épiciers et d'épiciers indépendants, et les consommateurs ont encore un lien privilégié avec eux. Mais les tentations sont fortes pour les consommateurs. J'ai demandé à Sylvain Charlebois de faire ressortir les éléments importants de son étude.
Oui, en fait, par rapport aux autres Canadiens, on voit qu'au Québec, les consommateurs sont très loyaux envers les épiciers. Ils vont visiter moins d'épiciers que la moyenne. Au Canada, c'est 2,3 épiciers de façon régulière, on visite. Et puis, au Québec, c'est beaucoup moins. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on s'est aperçu qu'au Québec, on va visiter plus de magasins spécialisés par rapport à d'autres places. Et ça, c'est intéressant. Et l'autre élément qu'on a répertorié en regardant les données, c'est que le consommateur québécois, c'est le consommateur le plus curieux au Canada. Autrement dit, c'est un consommateur qui est prêt à acheter un produit pour la première fois, qui est prêt à essayer quelque chose de nouveau. Tandis qu'ailleurs au Canada, il y a une timidité qui est beaucoup plus palpable.
À ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de fidélité plus forte chez les consommateurs québécois qu'ailleurs au pays?
De façon générale, je pourrais dire oui. Il y a une autre province qui rivalise un peu avec le Québec, c'est la Colombie-Britannique. À part de ça, là, un peu partout au Canada, là, on n'a pas affaire avec le même consommateur. Au Québec, on a non seulement un consommateur qui est loyal, mais on a aussi un consommateur qui a besoin qu'on humanise l'expérience en magasin. Autrement dit, l'assistance humaine, parce qu'on parle beaucoup de technologie aujourd'hui, les caisses libre-service, l'achat en ligne, tout ça, là. Mais au Québec, vraiment, là, durant l'expérience en magasin, de voir le gérant, de voir quelqu'un, un sourire, un bonjour, d'avoir de l'aide lorsqu'on veut chercher une canne de poids ou un type de pain, c'est quelque chose qui est nécessaire, là.
Quelle leçon, selon vous, les épiciers doivent tirer d'une analyse comme celle-là?
Bien, moi, je pense sérieusement que les épiciers indépendants, les propriétaires opérants, ont un petit avantage malgré l'avancement technologique ou l'invasion technologique que l'on perçoit au sein de l'industrie en raison de l'effet Amazon et tout ça. Il y a quand même un besoin d'interagir avec un humain. Et c'est certain qu'au niveau des modèles d'affaires qu'il y a sur le marché, un épicier indépendant a un avantage sur les autres modèles.
Et donc, la pérennité de la plus petite épicerie ou l'épicerie de propriété privée, ça vous inquiète? C'est plus rassurant ici qu'ailleurs?
Bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui adorent acheter tout à un endroit, mais de moins en moins. Donc, l'épicier spécialisé, une épicerie de petite surface, a de plus en plus la cote, surtout en ville. Et puis, l'autre aspect que nous, on a trouvé intéressant au Québec, qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs, c'est que dans les villes au Québec, donc Montréal et Québec principalement, l'achat local est une priorité majeure, pratiquement autant que le prix. Tandis qu'en région, et c'est un peu paradoxal, peut-être les gens ont pensé en région, le prix doit être important ou l'achat local doit être important. C'est pas aussi important, en fait. On voit vraiment que le prix est plus important en région qu'en ville. Donc, c'était vraiment une différence qui était quand même assez intéressante.
Donc, en conclusion, les épiciers québécois peuvent être rassurés de voir que la clientèle leur est plus fidèle, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout laisser aller, là.
Non, parce que l'achat en ligne est une menace qui est réelle. Donc, il va falloir marier technologie avec humanisation de l'expérience, à mon avis. Ceux qui vont avoir du succès durant les prochaines années vont être ceux qui vont créer l'amalgame entre les deux, parce que l'achat en ligne, on parle de 1,9% des Canadiens qui achètent de façon régulière des produits alimentaires en ligne. Mais 34% des Québécois songe sérieusement à acheter des produits alimentaires en ligne. Donc, il y a un marché potentiel énorme et on ne peut pas passer à côté de ça.
Donc, c'est à considérer absolument.
Absolument. Donc, il faut absolument marier les deux dimensions, dimension en magasin et aussi en ligne.
À l'Association des détaillants en alimentation, l'ADA, L'étude de Sylvain Charlebois vient alimenter une discussion déjà amorcée, mais qui doit s'accélérer. J'en ai discuté avec le président-directeur général de l'ADA, Pierre-Alexandre Blouin.
Bien, les commerçants établis dans les différentes communautés ont toujours eu un souci de se différencier par rapport aux commerçants, disons, plus corporatifs, les commerces de chaîne intégrés ou encore les nouveaux modèles qui arrivent dans le marché. Évidemment, on a plus de concurrents qu'on en avait il y a quelques années. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent puis qui viennent grappiller des parts. Ce qu'on retire de cette étude-là, c'est qu'on a encore un rôle à jouer. On a encore un travail à faire pour se rapprocher encore davantage de nos clients, mieux répondre à leurs attentes qui évoluent rapidement. Puis le commerce en ligne, dans le fond, ça peut aussi être un élément qui vient nous stimuler à faire des changements peut-être plus adaptés avec nos partenaires d'affaires. Je vous donne un exemple. C'est drôle, on est aujourd'hui dans une conférence du CETAC, puis on nous parlait beaucoup du risque pour les marques de commerce actuellement d'être effacées, dans le fond, dans des ensembles qui vont devenir beaucoup plus grands. Je pense que comme détaillant impliqué dans une communauté, on peut s'allier aussi avec des marques locales. On pense souvent au tout petit producteur local. Oui, c'est vrai, on peut le faire avec lui, avec le petit producteur maraîcher, le producteur de maïs local ou encore un petit transformateur de la région, mais aussi des marques québécoises qui vont peut-être avoir plus de difficultés dans l'avenir. Donc, cette nouvelle concurrence-là ouvre peut-être des nouvelles opportunités qu'il va falloir saisir pour mieux se différencier.
Véritablement, est-ce que je me trompe en l'interprétant de la façon suivante? Trouver une façon pour que l'épicier local, l'épicier de quartier, l'épicier de village ait un lien plus fort avec autant ses fournisseurs locaux que sa clientèle qui est locale et donc s'assurer d'un avenir de relations soutenues avec ces gens-là.
Je pense que c'est important quand on va à l'échelle d'un village. Si on regarde le dernier commerce qui va fermer, c'est l'épicerie, c'est le magasin d'alimentation, le dépanneur. Et c'est une richesse qu'on a dans nos communautés. Il faut bien les utiliser. Il faut faire comprendre aussi notre rôle de détaillant parce qu'il y a certains éléments qui sont peut-être plus difficiles à faire comprendre aux consommateurs dans l'ensemble de l'étude. Mais ça, c'est très préoccupant. Il y a une chose, par contre, qui est pour nous un grand défi qui ressort de l'étude, c'est que il y a une accélération assez importante au niveau des attentes des clients. Puis peut-être que le commerce en ligne va encore accélérer tout ça. Le client, maintenant, va s'attendre à avoir une réponse très, très rapide à sa demande. Donc, on est bon pour aller chercher le produit qu'il nous a réclamé, mais est-ce qu'on est capable de le fournir dans un délai de temps très court, comme le commerce en ligne peut le faire? Le catalogue est infini en ligne. Nous, on peut offrir un service différent, un service personnalisé dans nos points de vente. Il faut qu'on le fasse encore mieux qu'on ne l'a jamais fait. Les années devant nous ne seront pas plus faciles. Il va y avoir plus de compétition. Il va falloir être encore plus efficace, va être meilleur. Mais je pense que l'idée de la collaboration avec nos partenaires d'affaires, collaboration entre le détaillant et sa chaîne d'alimentation, collaboration avec nos fournisseurs, puis aussi un échange plus étroit avec nos clients pour arriver finalement à tirer notre épingle du jeu dans cet environnement-là qui change très, très rapidement.
Je vais faire une analogie, une comparaison avec le secteur fromager. Les petites entreprises fromagères, artisanales ou de taille moyenne à travers tout le Québec, mise beaucoup et de plus en plus sur la fidélisation de clientèle locale. Vous pouvez jouer un rôle là-dedans, là.
Tout à fait. Bien, je pense que les commerçants spécialisés ont déjà exploité cette force-là qu'ils ont, peut-être mieux que l'épicier traditionnel, que le propriétaire de dépanneur dans certains cas. Mais on peut faire mieux. On l'a beaucoup fait par le passé. Peut-être qu'on s'est un petit peu trop fié à ce que notre concurrent faisait. Je pense qu'il faut vraiment avoir une identité propre. Arriver à j'ai l'impression d'être un disque qui saute, mais c'est vraiment ça, je pense, c'est de bien s'identifier à notre communauté, mieux collaborer avec eux.
Donc, tout ça, ça veut dire que les épiciers, on revient au point de départ, là, s'ils veulent maintenir ce lien et ce contact privilégié qui subsiste toujours avec la clientèle, mais il va falloir que ça bouge, il va falloir que les gens s'adaptent, il va falloir que les gens trouvent toutes sortes de moyens. Donc, c'est tout un défi là, pour les épiciers.
Bien, je pense que la principale difficulté, c'est que ce n'est pas une recette qui va être unique. C'est que chacun va devoir y aller, y mettre sa propre couleur avec ses forces, parce qu'on a aussi un grand défi au niveau de la main-d'œuvre. C'est difficile de trouver des employés fidèles, des employés compétents, des employés motivés. Les gens de carrière en alimentation, les gens qui ont grandi dans les familles Steinberg, par exemple, c'est des gens qui sont ou bien retraités ou à l'aube de la retraite. Donc, on doit réussir à motiver de nouvelles générations de gens à grandir avec nous dans les entreprises, puis finalement à offrir un service qui va être meilleur qu'ailleurs, qui va être meilleur que dans le corporatif, qui va être meilleur que dans le commerce en ligne, parce que c'est l'expérience en magasin que les gens vont venir chercher chez nous. Puis c'est aussi la vitalité de nos rues commerciales. Quand on pense dans un village, quand on pense encore dans certains quartiers de villes plus urbaines. Enlever les commerces alimentaires, il n'y a plus grand-chose qui va se passer sur ces avenues-là. Il y a beaucoup de questions à se poser dans notre société québécoise. Est-ce qu'on va être encore une société distincte par rapport au reste du Canada ou encore aux grandes tendances nord-américaines ou encore on va être complètement étouffé par le commerce en ligne? J'espère qu'on va être dans le premier des deux choix.
Mais est-ce que vous vous sentez complètement exclu de cette possibilité d'affaires qu'est le commerce en ligne? Est-ce que c'est pensable que de plus petits commerçants, des épiciers, encore une fois, sur une base locale ou régionale, puissent faire du commerce en ligne?
Oui, écoutez, il y a des détaillants qui décident de sauter dans cette opportunité-là. Je pense par exemple à un de nos membres, Milano, dans la petite Italie, devenu un épicier généraliste, qui est parti petit magasin spécialisé, maintenant offre beaucoup de choses. Ils ont emboîté le pas. Il y a d'autres détaillants sous enseigne. Par exemple, les marchands IGA sont dans le commerce en ligne depuis de nombreuses années. Métro fait des tests. Donc, les détaillants ont tous des réalités différentes par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une initiative de bannière qui est derrière nous? Donc, on va faire autre chose, on va se concentrer sur notre service ou encore on veut emboîter le pas puis embarquer à pieds joints dans ce genre d'initiative-là. Je pense que ça revient vraiment aux détaillants de décider parce qu'on ne peut pas tout bien faire. Il faut vraiment cibler nos interventions pour être le plus efficace possible. Tant mieux si les gens, c'est le commerce en ligne, mais je ne pense pas que c'est la seule recette qui doit être poursuivie parce que, écoutez, un Amazon qui arrive avec le frais, on s'y attend, là, c'est une question de mois, d'années, on ne sait pas quand ils vont entrer dans le marché du Québec, bien, je ne pense pas qu'on va pouvoir tous être sur un même pied d'égalité. Il va falloir être meilleur ailleurs, puis je ne suis pas sûr que ça va être là.
Mais justement, le commerce de la livraison du frais par des grandes sociétés comme Amazon, Miss Fresh, la boîte du chef, Uber Eats, etc., etc. Est-ce que chez l'épicier, le commerçant local, c'est pas quelque chose qu'on fait depuis très longtemps avec la livraison?
On l'a fait. Il y a beaucoup de détaillants qui ont toujours cette livraison-là disponible. C'était de la commande téléphonique, principalement. Maintenant, on a une autre interface pour faire ce processus-là. Les gens le font instinctivement. On leur a pas dit « tu dois sauter dans cette nouvelle initiative qui est le commerce en ligne ». Pour certains, c'est juste l'extension d'une opération qui était déjà présente. Mais comme je vous dis, bien répondre aux clients, oui, ça peut être de livrer le produit, mais ça peut peut-être être aussi de reconsidérer l'offre de produits dans certains départements. Ça peut être d'offrir un service additionnel, de combiner des actions, d'offrir une section restauration, parce que c'est aussi le genre de tendance que les gens recherchent. Oui, ils recherchent la capacité d'avoir le repas à la maison, mais il y a aussi d'autres types d'opérations qu'on a peut-être pas encore investi au Québec, comme on peut le voir ailleurs au Canada. Je donne un exemple de réglementation. Actuellement, même si on a des aires bistrot, on n'a pas le droit de servir d'alcool dans nos sections bistrot. C'est malheureux. Ça pourrait nous permettre d'avoir un service équivalent à ce qui se fait en restauration à l'heure actuelle. Puis pour certains magasins, pour y avoir mangé, on n'a pas à rougir de la qualité des produits qui sont offerts dans notre service de restauration en magasin.
Donc, est-ce qu'on peut dire que les prochains mois, prochaines années, grande préoccupation, grande réflexion à l'ADA sur cette question-là?
Oui, oui, tout à fait. On a des années importantes devant nous. Il faut qu'on devienne meilleur dans nos opérations. Puis il faut aussi qu'on arrive à mieux se promouvoir comme secteur d'activité. Parce que, à la fois pour avoir une rétention de personnel, mais aussi pour demeurer pertinent dans nos communautés. Il ne faut pas rester assis sur notre réputation. Les consommateurs nous ont dit dans une étude qu'ils étaient heureux puis ils tenaient toujours à nous. Bien, il faut qu'on demeure pertinent encore pour de nombreuses années.
Ici Lionel Levac. Le modèle de la petite épicerie ou de l'épicerie indépendante au Québec va véritablement éclater et l'offre de ces commerces se diversifier. Quoi que les épiciers fassent, il leur faudra cependant continuer d'agir avec leurs clients comme de véritables voisins. La proximité, le commerce local peuvent prendre bien des formes, mais la réputation, la renommée, je dirais, doivent continuer de s'appuyer sur cette notion de présence dans le milieu. Une présence plus moderne, peut-être, mais qui devra rester aussi rassurante. Au revoir.